donné qu'il y en a une qui reste de trop prendre.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom, votre prénom et votre âge pour commencer?
Emmanuel Leclerc, 36 ans.
36 ans. C'est quoi votre profession?
En fait, ma profession principale, c'est l'enseignement. Et ma seconde profession, c'est l'écriture, c'est les publications. Et puis, je suis aussi étudiant, puisque je suis en deuxième année de licence canonique, c'est-à-dire en deuxième année de master de théologie à l'Institut catholique.
D'accord. Écrivain, professeur, séminariste, quelle part
de... Non. Je ne suis plus séminariste. Je ne suis plus séminariste depuis un an maintenant, officiellement depuis un an. Et je me consacre pleinement à l'enseignement. J'enseigne dans deux endroits différents. Donc je suis intervenant à l'IERP, ici à l'Institut catholique. L'IERP, c'est l'Institut d'études religieuses et pastorales, où je donne un cours au premier semestre sur le personnalisme et un cours au second semestre sur l'anthropologie du sacré. Ce sont des cours en ligne.
D'accord.
Voilà, dans des cours en ligne. Et puis, j'enseigne principalement la philosophie dans un lycée à La Rochelle.
À La Rochelle.
En fait, je suis deux jours par semaine à Toulouse.
D'accord.
Après, je suis le reste de la semaine à La Rochelle. Mmh. Et le week-end, très souvent à Paris pour différents projets, à la fois d'écriture et des projets de transmission, puisque je viens de fonder un cercle de pensée de jeunes intellectuels qui s'intitule « Devenir pour agir ».« Devenir pour agir » est un cercle de pensée anthropologique, et la finalité, l'objectif en tout cas de ce cercle, c'est de proposer à 25-30 personnes maximum une conférence dispensée par des intervenants de qualité sur l'anthropologie. Autrement dit, essayer dans tous les domaines différents de mes intervenants de donner une réflexion sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Afin de le définir et surtout de savoir ce à quoi il est appelé plus tard. En fait, je me suis aperçu, j'ai un constat depuis plusieurs années que nous avons, excusez-moi de l'expression, des branquignoles à la tête non pas de nos institutions, mais beaucoup ont des places qui leur sont proposées avec des responsabilités énormes et ils n'en sont pas malheureusement à la hauteur. Alors je me suis dit, c'est peut-être qu'ils ne se connaissent pas assez, et alors pour se connaître assez, il faut d'abord réfléchir sur soi. Pour réfléchir sur soi, il faut se connaître. Pour se connaître, il faut avoir des personnes, des intervenants qui puissent nous donner des clés. Et donc voilà, c'est un cercle qui a commencé vendredi dernier avec la philosophe Chantal Delsol, qui était intervenue dans un colloque ici à l'ICT en avril dernier, avril ou mai dernier, je ne sais plus. Et donc voilà, et toute l'année, j'ai mes intervenants toute l'année, que ce soit des ambassadeurs, des ministres, des artistes, ou des personnes, j'en fais même appeler un de New York qui viendra dans ce cercle à Paris. Et aussi, c'est un cercle assez fraternel et convivial, pour la simple et bonne raison qu'en étant indien, j'ai proposé de se réunir dans un restaurant indien avec un dîner indien. Parce que ça crée des liens et ça rappelle aussi le côté oriental de la pensée. Et mon côté oriental que j'aime beaucoup et que je ne peux pas nier, bien au contraire.
On sait que votre force, c'est votre histoire, d'où vous venez. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots quelle est votre histoire?
Oui, finalement, je ne sais pas d'où je viens et encore moins où je vais, mais j'essaie de comprendre qui je suis, là aussi, de venir pour agir. J'essaie de comprendre qui je suis en me rappelant de mon passé. Oui, je suis donc d'origine indienne, abandonné par mes parents 10 jours après ma naissance dans les bidonvilles de Bombay et récupéré en personne par Mère Teresa qui m'a mis dans un orphelinat et dans lequel je suis resté 11 mois et au bout duquel j'ai été adopté par une famille française.
L'arrivée en France s'est bien passée, ça a été compliqué au niveau de la langue, de la culture, l'adaptation?
À vrai dire, non. Alors, à vrai dire, à 11 mois, je ne m'en rappelle pas. Parce qu'en arrivant tout bébé, c'est vrai qu'on ne se rappelle pas de tout cela. Cependant, non, ce n'a pas été difficile parce que je n'avais absolument pas appris la langue et le dialecte du pays. Et finalement, je me suis vite enraciné en France. Mais à la fois, je n'ai jamais nié mes origines parce que elles sont ancrées en moi. Et je dirais, il ne vaut mieux pas les nier parce que dans tous les cas, le naturel revient toujours au galop. Donc, vivons. Je vis mon naturel tout en ayant adopté et m'être marié avec la culture française, finalement, à laquelle j'ai toujours été immergé.
Vous êtes retourné en Inde depuis? Vous pardonnez à vos parents de vous
Oui,
avoir
je suis
abandonné?
retourné en Inde il y a 2 ans. 2016, ah oui, en fait, pardonner, oui, je n'ai même pas eu besoin de pardonner parce que pour moi, c'était le plus beau cadeau qu'il m'ait donné, c'était la vie. Donc, au contraire, je ne suis pas allé en Inde pour leur pardonner, pour les pardonner, mais absolument au contraire, pour les remercier. Voilà. La vie est un cadeau
Oui.
et il nous faut vivre ce cadeau pour, à notre tour, être un cadeau pour les autres. Autrement dit, la vie est un cadeau que j'ai reçu et c'est surtout un cadeau que je veux offrir.
Les valeurs qui vous animent, c'est des valeurs d'amour, c'est des valeurs, c'est quoi?
Je crois que la valeur qui m'anime le plus, en effet, c'est l'amour, mais l'amour de l'homme. Je me définis comme un humaniste. Un humaniste qui aime l'humain, non pas comme je voudrais qu'il soit, mais tel qu'il est. C'est-à-dire avec ses défauts, avec ses qualités, avec tout ce qu'il est, finalement, tout ce qui le constitue. Et avec sa valeur, avec sa richesse, avec ses doutes. Mais surtout, je l'aime avec sa vulnérabilité. Je crois que ce qui définit l'homme, ce qui définit l'humain, sa plus grande richesse, c'est finalement sa fragilité. Parce que c'est dans la fragilité, dans la vulnérabilité que nous sommes vrais avec nous-mêmes. Et en étant vrai avec soi, on ne peut pas ne pas être vrai avec l'autre. Parce que finalement, je ne suis pas vrai avec l'autre du moment où je ne suis pas vrai avec moi-même, c'est-à-dire du moment où je cache ma vulnérabilité, ma fragilité. Or, au contraire, c'est cette vulnérabilité, c'est cette fragilité qui fait la force de l'homme et qui fait sa force, fait sa richesse, qui fait sa richesse, fait son être même, c'est-à-dire ce qui le rend pleinement humain.
Le collectif que vous avez créé, donc Devenir pour agir, l'objectif c'est un courant de pensée, c'est une association, c'est la volonté d'une prise de conscience générale.
Alors, je ne dirais pas que c'est un collectif. Je dirais que simple, donc c'est un, comme vous venez très justement de dire, c'est un cercle de pensée ayant comme objectif une formation. Il y a depuis quelques années, j'ai eu cette intuition que l'homme devait être formé et surtout bien formé. En effet, je pense que pourquoi doit-il être formé? Ben, pour savoir, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'il est vraiment, qui il est vraiment. Je tiens à souligner, entre parenthèses, que ce n'est ni un mouvement de pensée, ni un mouvement religieux. Je dis ça parce que j'ai eu un leader politique que je n'y citerai pas, qui m'a appelé là, il y a quelques semaines, lorsqu'il a vu, en tout cas lorsque ses équipes ont vu que c'était que mon cercle de pensée naissait. Ils se sont empressés de m'appeler, ce que je n'ai rien contre. Au contraire, je trouvais ça tout à fait honorable et louable parce qu'ils s'intéressaient à ce qui se passait sur la toile, mais pour me demander si je ne pouvais pas venir discuter avec eux. Enfin, j'ai tout de suite compris que c'était simplement pour les rallier avec les élections européennes, municipales, etc., qui approchent. Cependant, non, je leur ai dit que c'est un mouvement absolument qui n'a pas du tout de connotation religieuse ni politique, mais simplement de pensée, réfléchir vraiment sur l'homme pour bien agir demain. Le monde de demain, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut former les jeunes. Et c'est pour ça aussi que ce cercle de pensée, que j'ai mis sous forme d'association, ce cercle de pensée est simplement ouvert aux étudiants et aux jeunes professionnels. Et ainsi, si c'est ouvert à ces, cette, cette tranche d'âge, ce n'est pas anodin parce que ils ont besoin d'être formés. Nous avons besoin d'être formés pour bien agir demain. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, et c'est pour ça que je veux ce côté complètement intimiste, c'est ouvert à 25-30 personnes maximum. Et tous les intervenants que j'ai pu avoir, puisque la programmation est faite pour toute l'année, voire même jusqu'en octobre, septembre-octobre prochain, donc dans un an, pour un an, ce dont je me suis aperçu, c'est que tous les acteurs, les intervenants de réputation nationale, internationale, voire tous internationales finalement, m'ont répondu présent. Alors aussi, je souligne que certains ne m'ont pas répondu ou m'ont répondu négativement. Mais en tout cas, ceux qui m'ont répondu présent, c'est simplement... pour deux raisons. Et la première raison, c'est le côté intimiste. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, nous sommes habitués à donner des conférences nationales et internationales devant 200, 300, 400, 500 personnes. Et là, que vous le proposiez à 25, 30 personnes maximum, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'il y a un véritable échange, un véritable dialogue. Et je souhaite vraiment garder ce côté intimiste. C'est leur premier argument. Vraiment de discuter avec eux, avec un dialogue vrai, un échange tout à fait authentique, et aussi le côté fraternel avec le dîner indien. Parce que les intervenants restent pendant le dîner, et ça a un autre échange, etc. Et donc en fait, le cercle se constitue ainsi, c'est 45 minutes d'intervention, de conférence, 20 minutes, une demi-heure d'échange, de discussion, de confrontation. Parce que je trouve que c'est le mot qui soit la confrontation. Confrontation constructive, bien sûr, dans le sens où on n'est pas là pour débattre, mais pour discuter. La différence entre le débat et la discussion, c'est que le débat, on ne sait pas où on va, alors que la discussion, elle est constructive, il y a une finalité. Non pas une finalité commune, mais une finalité dans le sens où on sort de cette discussion et on arrive à des points concrets qui sont tout à fait défendus et défendables philosophiquement, parce que c'est un cercle de pensée philosophique, puisque c'est anthropologique. Mais philosophique ne veut pas dire uniquement un cours de philo, hein, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a des chefs d'entreprise, des artistes, des ambassadeurs, des ministres qui viennent, donc tous les domaines sont proposés, afin que l'homme puisse se connaître de différentes manières, en tout cas sous différents angles. Donc voilà les deux arguments finalement qui ont retenu l'attention de ces intervenants, à savoir la proximité et le côté de la convivialité.
On peut avoir certains noms pour les intervenants ?
Oui. La première intervenante qui a donné cette conférence, c'est la philosophe Chantal Delsol. Mmh. Voilà. Après, nous aurons Michael Lonsdale avec son metteur en scène au mois de novembre. Et puis dans l'année se suivront, il y aura un ambassadeur, l'ambassadeur Possel, Jean-Christophe Possel, qui travaille actuellement au Quai d'Orsay. Et puis, entre autres, nous aurons l'ancien directeur de l'école du Louvre. Et puis, aussi nous aurons Éric Dupond-Moretti, le pénaliste français, ainsi que Rachida Dati. Nous aurons aussi un autre, le directeur de l'Agence française du développement, qui est un grand économiste français. Et aussi, nous aurons Andrea Bellantonet, qui est le doyen de l'Institut catholique, qui m'a fait l'honneur et la joie de répondre à mon invitation et qui nous donnera, quant à lui, une conférence au mois de mai. Et en tout cas, je l'en remercie.
Donc, ces conférences ont lieu à Paris ?
Voilà, ces conférences ont lieu à Paris, dans ce restaurant indien, mais elles seront toutes enregistrées et filmées.
D'accord.
Ce qui permettra de pouvoir les avoir sur le site devenirpouragir.com lorsque les conférences auront lieu. Donc là, c'est la conférence de Chantal Delsol sera bientôt mise en ligne quand l'agence de communication m'aura transmis les liens.
Cette idée de devenir pour agir, elle vient de vous, elle vient de plusieurs personnes, c'est une réflexion longuement mûrie.
Alors c'est une réflexion mûrie et elle est tout à fait personnelle. D'accord. En fait, c'est vrai que je me suis lancé ce défi, je me dis je ne savais pas du tout comment le faire. Depuis longtemps j'avais eu cette intuition, mais je ne savais pas comment la mettre en pratique. Alors, il se trouve que cet été, j'ai été invité à un mariage et j'ai fait des rencontres. Vous savez que toute rencontre est belle du moment où on lui en donne un sens.
Oui.
Et voilà, et j'ai fait cette rencontre. Et en fait, à ce moment-là, m'est revenue beaucoup plus concrètement cette idée de mettre ce cercle en place. ce cercle anthropologique. Et finalement, ben, tout s'est enchaîné d'une manière à la fois difficile, logique et harmonieuse. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'avais toute la programmation de l'année, c'est-à-dire tous les intervenants avaient donné leur accord pour toute l'année avant même que la conférence inaugurale ait lieu. La conférence inaugurale a eu lieu vendredi dernier, donc le 12 octobre, et j'avais toute la programmation de l'année avant cette date-là, ce qui a permis simplement d'annoncer toute la programmation dès le 12 octobre.
Toutes les places sont prises, je présume, pour toute l'année aussi.
Oui. Alors après, c'est les 25 ou 30 premiers qui s'inscrivent, donc oui. Et tout se fait par les réseaux sociaux.
Donc inscription via les réseaux sociaux.
Alors inscription, comment dirais-je, la communication par les réseaux sociaux et les inscriptions sur le site devenirpouragir.com, qui finalement est en lien avec les réseaux sociaux. Donc on passe par les réseaux sociaux et on s'inscrit. Alors voilà, au niveau de l'inscription, c'est vrai que ce sont. Alors, comme c'est une association, j'ai proposé une adhésion annuelle. Mmh. Adhésion annuelle qui est de 120 euros par an, ce qui permettra d'avoir la soirée à 60 euros. Soirée, c'est-à-dire conférence plus dîner. Et pour ceux qui n'adhèrent pas, la soirée reviendra à 80 euros.
D'accord. C'est une association, mais vous êtes seul dans le bateau, vous avez une équipe de travail, vous avez des communicants, ça fonctionne comment?
Alors, qui dit association dit bureau, bureau associatif. Donc j'ai un trésorier et un secrétaire, et donc moi-même. Et à trois, nous avançons. C'est innovant, c'est une association, je ne sais pas comment elle se poursuivra, mais ce que je sais, c'est qu'elle, pour l'instant, elle a démarré et que l'on se donne tous les moyens pour pouvoir l'épanouir. Et afin de l'épanouir, c'est vrai que j'aime le professionnalisme. Et donc, j'ai embauché je fais travailler une agence de communication.
D'accord.
Une agence de communication lyonnaise, qui me gère toute la communication au niveau national et international, puisque c'est traduit en anglais, etc.
D'accord.
Aussi, puisque je fais venir le directeur adjoint de Paris Match, qui va nous donner une conférence, qui est à la fois un bureau à Paris et un bureau à New York, donc je le fais venir de New York. Ce monsieur, par exemple, a un CV fort intéressant, c'est pour ça que je l'ai appelé, parce que je suis persuadé qu'il peut nous donner une très belle conférence, puisqu'il a eu la joie, l'honneur et le privilège d'avoir des interviews individuelles et particulières à la Maison Blanche avec Barack Obama, avec Bush et avec Donald Trump. Et donc c'est un grand reporter de guerre qui là aussi va nous donner cela. Et puis donc ça, c'est l'agence de communication que je fais travailler. Et la deuxième chose aussi, je fais travailler une autre agence de communication, mais là beaucoup plus au niveau visuel, donc un photographe parisien, une grande agence de photographes parisiens, qui vient nous donner, qui vient, pardon, nous enregistrer et nous filmer la conférence. Je souhaite vraiment que ce soit des professionnels qui fassent partie, avec lesquels je veux travailler, parce qu'on a besoin de professionnels. Voilà, les gens qui ne sont pas compétents, à mon sens, ce sont des gens qui ne se donnent pas les moyens pour pouvoir proposer quelque chose de bien, de compétent, d'exigeant et de rigoureux aux participants. Moi, personnellement, c'est une conscience professionnelle. Je ne peux pas proposer à des participants des conférences qui, à la fois, ne sont pas filmées, ne sont pas bien filmées, et surtout des conférences qui ne sont pas intéressantes. Toute conférence est intéressante, mais pour ce cercle-là, et c'est pour ça que ce sont un cercle de jeunes intellectuels qui se rassemblent. Et pour les inscriptions, les participants passent par moi. C'est-à-dire, je fais la présélection, et c'est vrai que je reconnais en avoir refusé une dizaine là pour la première conférence, parce que c'était l'intérêt qu'ils avaient, n'était pas l'intérêt du groupe et du cercle. Donc, voilà.
Vous avez beaucoup de demandes au niveau de la communication, vous commencez à vous faire connaître?
J'ai beaucoup de demandes, oui. J'ai beaucoup de demandes. Alors, Je commence à me faire connaître, ben, comme je vous le disais, alors même que la conférence n'avait pas lieu, j'ai eu ce leader politique qui m'a appelé, qui m'a contacté. Voilà, moi je ne cherche pas à me faire connaître, je cherche à être compétent. Mmh. Voilà. Et du moment où on est compétent, alors les portes s'ouvrent. Mais les portes s'ouvrent ne s'ouvriront pas si l'on n'est pas compétent.
Mais l'objectif, c'est quand même que Devenir pour Agir soit une association à part entière, reconnue pour son travail et la qualité des interventions qui sont proposées.
Alors, mon objectif, ce n'est pas qu'elle soit reconnue. Mon objectif, qu'elle soit compétente.
Compétente.
Et du moment où elle sera compétente, alors peut-être elle sera reconnue, mais je ne cherche pas à ce qu'elle soit reconnue. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi vous avez trouvé une agence de communication, etc. Mmh. Tout simplement, parce que il me semble qu'une association, en tout cas ce cercle, doit être partagée pour le plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'ai proposé à une agence de photographes de venir filmer les conférences afin qu'elles soient mises sur la toile pour pouvoir participer.
Vous craignez pas que ça dérive en mouvement politique ou que ça fasse des envieux? Parce que c'est quelque chose de relativement novateur, ce cercle de pensée, donc ça peut intéresser certaines personnes.
Ça intéressera peut-être, sans doute, je ne sais pas, certaines personnes, mais je ne souhaite pas me projeter, je souhaite vivre le moment présent et faire avec le plus de rigueur et d'exigence et de compétences possibles, je souhaite m'investir vraiment dans ce cercle-là. Je ne veux pas vous dire ce que ce cercle deviendra, parce que premièrement, je ne le sais pas, et deuxièmement, je ne veux pas... je dirais mettre des plans sur la comète. Mmh. Non, je souhaite vraiment. Voilà, c'est une intuition que j'ai eue. Et puis, bah voilà, cette intuition s'arrêtera peut-être dans un an, deux ans, j'ignore. Mais en tout cas, je souhaite proposer simplement à travers ce cercle une réflexion solide, une réflexion anthropologique solide et rigoureuse.
Enseignement de la philosophie à La Rochelle, enseignement à l'ICT, devenir pour agir. Écrivain, c'est important d'avoir ces quatre bases pour vous?
Oui, c'est important parce que je crois, en fait, je suis complètement amoureux de l'humain, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis complètement amoureux de la transmission. Et je crois que cette transmission, c'est ce qui fait les liens entre les humains. Mmh. Vous savez, une société ne peut se construire qu'avec des échanges. Mmh. Des échanges en paroles, des échanges en actes, des échanges par l'écriture. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très souvent appelé dans les salons du livre, j'en faisais un actuellement ce week-end, pardon, à Tours, j'aime énormément discuter avec les lecteurs qui viennent finalement nous voir et qui nous disent voilà, on a lu votre livre ou on aimerait lire votre livre, on a entendu parler de vous, etc. Et je crois que tout se construit dans l'échange et dans la relation humaine. Voilà. Autrement dit, on ne peut pas former une société, construire une société, en tout cas faire partie d'une société, si l'on n'est pas acteur de ces échanges-là. Et donc, finalement, si on n'est pas humain, l'humain ne peut pas vivre seul, l'homme ne peut pas vivre seul, l'homme n'est constitué qu'en étant homme, tout d'abord par l'échange et tout d'abord par les liens. C'est du moment où je reconnais l'autre tel qu'il est, en tant qu'être humain, et qu'il me reconnaît, c'est réciproque, que l'échange se fait, que la construction de l'humanité se fait, finalement, que l'homme devient homme.
Les questions de l'homme, les questions de l'environnement sont au cœur de l'actualité en ce moment. Vous pouvez me dire quoi là-dessus?
Là, les questions d'actualité sont malheureusement tristes, avec toutes les inondations qu'il y a, toutes ces... Et aujourd'hui même, monsieur... Aujourd'hui même, le ministre de l'écologie, pardon, de Rugy, monsieur François de Rugy, est dans l'Aude avec le Premier ministre pour aller soutenir toutes ces victimes qui ont malheureusement perdu la vie pour certaines, et d'autres sont complètement ravagées par les inondations, etc. Oui, je crois que ces questions sont malheureusement d'actualité, mais il faut s'entraider. Et là aussi, le lien que l'on doit faire entre ceux qui sont dans la panade, si je puis dire, ceux qui ont besoin d'aide, et nous qui sommes, et on a de la chance, qui sommes protégés encore actuellement de tout cela, on ne peut pas rester indifférent. Et je crois que la société, c'est celle qui ne doit pas vivre dans l'indifférence. Par ailleurs, c'est vrai que l'autre grande actualité, c'est l'annonce du futur gouvernement. Voilà, laissons... à l'État le soin de nous proposer, et en tout cas de faire un bon gouvernement. Mais ce que je souhaite simplement, c'est que tous les acteurs de ce gouvernement travaillent toujours au bien commun, c'est-à-dire au service du bien commun, au service de la dignité humaine.
C'est compliqué en ce moment. C'est compliqué de travailler au service du bien commun et de la dignité humaine.
Mais je crois que oui, c'est difficile parce qu'on ne donne pas assez la... on n'arrive pas vraiment à définir ce qu'est le bien commun et ce qu'est la dignité humaine. Je crois que le bien commun, ce n'est pas, c'est de servir tous les hommes, non pas les individus, mais toute personne humaine. C'est-à-dire que tout ce que l'on doit faire doit être au service du bien commun, doit être au service de la dignité humaine. C'est-à-dire doit être au service de la construction humaine, de son épanouissement, non pas de sa réussite, mais de son épanouissement. C'est-à-dire que toute personne doit se sentir à leur place dans la société. Et c'est vrai que c'est un défi là aussi à relever, mais vous savez, le défi est à relever ensemble. Autrement dit, il ne faut pas attendre des autres qu'elles relèvent ce défi, mais si moi-même, je n'arrive pas à être un acteur, alors je ne pourrai pas reprocher aux autres de ne pas l'être. Et c'est pour ça que je propose simplement à ma place d'être un acteur de ce service du bien commun par cette proposition de ce cercle d'intellectuels de pensée anthropologique de venir pour agir.
Il en est de même pour les questions environnementales, on ne pourra pas s'en sortir seul.
On ne pourra pas s'en sortir seul et je crois que là aussi au niveau environnemental, si l'homme ne fait pas un effort, si chaque homme ne fait pas un effort là où il est, dans la région où il est, dans son département, dans sa ville, dans son village, dans sa propre maison, s'il ne respecte pas la nature, ben vous voyez les catastrophes qu'il y a. Vous savez que ce n'est pas, on dit souvent oui, on comprend pas trop pourquoi il y a autant de catastrophes naturelles. Ben je crois que l'homme en est le premier acteur. L'homme est le premier responsable de ces catastrophes naturelles parce que du moment où lui-même ne respecte pas la nature dans le quotidien de sa vie, la nature, dans tous les cas, aura le dernier mot et la nature est une revanche. Et donc, pourquoi avons-nous autant de signes naturels catastrophiques actuellement ? C'est que je crois que l'homme est vraiment invité à réfléchir sur sa manière de vivre dans la nature et surtout sa manière de respecter la nature. Mais je crois que le respect de la nature environnementale commence avant tout par le respect de la dignité humaine.
En termes de livres, vous en êtes à combien ? Vous en êtes où ? Il y en a qui sont en préparation ?
Alors là, j'en ai publié actuellement 7. Et avant la fin de l'année, avant décembre, je dois rendre mon 8e livre à mon éditeur, qui est une commande de mon éditeur. Et donc, je vous dirai en temps voulu quel est le thème et le contenu. Enfin, je vous dirai le thème en temps voulu, puis si vous souhaitez avoir le contenu, je ne peux que vous inviter à vous le procurer. En tout cas, il sortira en 2019.
D'accord, il sortira en 2019. Dans toutes vos activités, vous touchez à plusieurs publics, c'est aussi important pour vous, des lycéens, des étudiants, des jeunes intellectuels, des politiciens, des lecteurs de tous les jours. C'est ça aussi la richesse humaine.
Complètement, vous avez raison, c'est la richesse humaine et la grandeur du monde. Les lycéens, je trouve ça merveilleux pour la simple et bonne raison que à la fois ils sont dans ce passage de la vie adolescente à la vie d'adulte, à la vie étudiante, et ce passage là est hyper important, surtout en philosophie. Autrement dit, on doit leur donner les clés d'une bonne réflexion. Mais dans tous les cas, que ce soit les lycéens, les étudiants, les jeunes intellectuels, les professionnels ainsi que les politiciens, moi je suis complètement amoureux de la rencontre, et finalement dans toutes ces rencontres que je peux faire, j'apprends énormément d'eux. La transmission et la réception, c'est ce qui me passionne. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement là pour leur donner ou leur offrir une pensée, leur partager. Je suis simplement là pour leur partager ce que je sais, mais qui dit partage dit réciprocité. On ne peut pas partager tout seul. Donc en retour, ils m'apprennent énormément, ils me donnent énormément. Et c'est ce que j'aime dans ces différentes discussions que j'ai avec tous ces acteurs de la vie sociétale. Et finalement, à travers ces discussions, je vois et je découvre, et je suis toujours émerveillé par l'humain et par sa dignité humaine.
Vous m'avez dit que vous avez quitté le séminaire il y a un an et demi. C'est toujours l'objectif de devenir prêtre.
Là aussi, je vis le moment présent. Je ne mets pas de plan sur la comète, j'essaie de vivre l'instant présent. Vous savez, on dit souvent qu'il faut vivre le moment présent.
Oui.
Carpe diem.
Oui,
carpe diem, c'est on n'a malheureusement pas la bonne traduction de carpe diem qui vient, comme vous le savez, d'Horace. Carpe diem, exactement la véritable définition, enfin traduction, pardon, ce n'est pas vis le moment présent, mais cueille le jour qui arrive, cueille l'instant qui arrive. Et moi, je suis dans cet accueil de l'instant. Et en tout cas, je tends à être dans cet accueil de l'instant parce que c'est cet accueil qui me permet de découvrir et d'être continuellement émerveillé. Donc, je ne peux pas vous dire si un jour je serai prêtre ou pas. Pour l'instant, je suis là. Ce que je souhaite simplement, c'est faire ce qu'il m'est demandé avec le plus de rigueur, d'exigence et de compétence.
Ok, très bien, merci.
Merci à vous.